Avec Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Toute cette semaine sur Phare FM, célébrons la vie, semaine consacrée à la vie avec chaque jour un spécialiste avec nous. Le but de cette semaine, c'est de retrouver le miracle de la vie dans toutes ses dimensions. Et donc du coup, forcément, un jour égale une dimension, j'ai envie de dire.
Hein, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on va voir la dimension biologique avec André Hegen. Bonjour André, rebonjour.
Bonjour Nathanaël, bonjour Sandrine.
Alors
et bonjour à tous.
Vous êtes ancien directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Vous êtes aussi spécialiste du génome et des biotechnologies. Et forcément, quand on entend ces mots-là, on a envie de dire aïe aïe aïe, stop.
On parle de quoi là?
C'est quoi ces gros mots?
Donc, ça fait peur et on part en courant. Oui.
Exactement. Donc non, restez tous là. André va vous expliquer c'est quoi les génomes et qu'est-ce qu'on étudie quand on parle de biotechnologie. André.
Alors, c'est quoi le génome? Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais en gros, et pour faire rapide, il faut s'imaginer un ensemble de recettes de cuisine pour le vivant. Donc ça va être des choses très, très simples. Donc ce que l'on étudie quand on étudie le génome, on étudie les organismes vivants, mais on étudie la façon dont est codée l'information pour les organismes vivants. Donc, la façon dont les instructions sont écrites pour faire un être vivant.
Et quand on parle de biotechnologie, alors c'est quoi exactement?
Alors, biotechnologie, c'est très très vaste, mais c'est des applications qui vont se faire dans le monde du vivant. Ça peut être, par exemple, la fabrication de la bière, c'est une application de biotechnologie.
D'accord.
Donc, c'est... Oui.
Je sens une souris, là, elle apprend. Là.
Oui, parce que je me dis qu'on ne va pas forcément parler après de fabrication de la bière.
Non, pas forcément.
Ne soyez pas
trop
déçus.
Peut-être pas. Non.
Par contre, ça va être très intéressant quand même. Vous restez avec nous. Le Positif Morning, c'est jusqu'à 10h avec cette semaine spéciale dont on vous fait profiter. On célèbre la vie toute cette semaine. Le but, c'est retrouver le miraculeux qui nous entoure, qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus autour de nous. Et alors, de manière différente, en fait, chaque jour avec un angle différent chaque jour. André Hegen est notre invité jusqu'à 10h. Il est entre autres ancien directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Alors, on a abordé un petit peu légèrement ce que pouvait être le génome, les biotechnologies. J'ai envie de vous poser la question, là, comme ça, un petit peu directement, André, étant donné qu'aujourd'hui on va voir avec vous la dimension biologique de la vie, qu'est-ce que la vie, tout simplement, si je puis dire?
Grave question. Ah. J'ai envie de répondre un petit peu de façon provocative en citant une phrase de François Jacob, qui est un prix Nobel, et qui disait, mais finalement, qu'est-ce que la vie? C'est une question appropriée, mais qui n'a pas de réponse.
Ah.
Alors, et oui, on a tous, je pense, une idée intuitive de ce qu'est la vie, mais on ne peut pas la définir de façon exacte. C'est un petit peu comme le temps qui passe. On sait ce que c'est que le temps, mais si on vous demande de définir le temps, ce sera très difficile. Alors, on va définir la vie, peut-être, par rapport à un état. La vie, déjà, on sait que c'est un état éphémère. C'est passager. La Bible nous dit « la vie passe vite et nous volons vers la mort ». Et puis, pour être un petit peu, encore aller un pas plus loin, moi, des fois, je définis la vie comme étant un trait d'union. Un trait d'union entre une date de naissance et une date de mort. C'est comme ça que qu'on la voit dans les cimetières. Et maintenant, au niveau biologique, parce que je pense que c'est ça qui nous intéresse, au niveau biologique, on voit certaines caractéristiques de la vie. Et un état, un organisme vivant est caractérisé par une capacité de se reproduire, de métaboliser certaines choses, de réagir à des stimulus. Donc, ça va être caractérisé sans que l'on sache maintenant, même au cours de siècles et siècles d'investigation, sans qu'on sache vraiment le définir de façon exacte.
On va dire que ça fait peur, même si les biologistes n'arrivent pas à le définir, ça veut dire que ça reste encore un mystère et on aura l'occasion de percer quelques mystères, mais pas tous. En tout cas, on va parler de code génétique, d'ADN dans quelques instants et de voir que c'est quand même extraordinaire tout cela, Sandrine.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a pas fini de trouver cela extraordinaire et c'est bien pour ça qu'il y a des gens qui travaillent dessus aussi toute une vie. je pense que c'est pas André qui me dira l'inverse. La radio autrement, Phare FM. Semaine spéciale consacrée à la vie, retrouver le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, on étudie la dimension biologique avec notre invité André Hegen, qui est spécialiste du génome et des biotechnologies, entre autres.
Exactement. Et en antenne, donc en préparant cette émission, donc André nous disait que en fait, finalement, tout ça, c'est un petit peu une cuisine. Voilà, avec Maïté qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, on parle aujourd'hui de biologie et on parle de recettes. C'est ça pour tout ce qui est la vie du côté biologique.
Merci Maïté, c'est grave.
C'est bien cela, André. Hein. Donc, oui, oui. On parle de cuisine. Pourquoi vous parlez de cuisine ou de recettes ?
Bien, c'est tout simple. En cuisine, lorsqu'on veut faire un gâteau, on a besoin d'une recette, on a besoin d'ingrédients. Mmh. Et ensuite, il faut savoir comment les combiner ensemble pour finalement aboutir à un gâteau ou à un plat particulier. Mmh. Eh bien, au niveau du monde vivant, c'est la même chose. On va avoir des matériaux, des constituants, et puis il faut savoir comment les assembler. Et donc, le génome, c'est cette encyclopédie, c'est cet ensemble de milliers de recettes de cuisine qui vont agir ensemble pour que finalement vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, ou un chat sera ce qu'il est. Donc, tout est codé, tout est composé dans les instructions qui sont dans ce génome.
Et quand on parle d'instructions, quand on parle de génome, il y a combien d'instructions ? Est-ce qu'on parle de dizaines ? Est-ce qu'on parle de milliers ?
Voilà, c'est là où on n'est pas sûr encore à 100%, mais on parle pour l'être humain entre 23 et 27 000 recettes de cuisine, avec aussi en plus, pour que ces recettes de cuisine fonctionnent et soient bien coordonnées, une immense table de mixage qui existe dans le génome.
Ça nous parle, ça.
Qui existe aussi dans le génome.
Et c'est quoi cette table de mixage, alors exactement ?
Qu'est-ce que c'est ? Ça permet de faire des réglages.
C'est faire des réglages.
Exactement, ça va permettre de faire des réglages, de faire qu'une recette de cuisine soit exprimée de façon plus ou moins grande, que telle autre va être réprimée à un moment donné. Donc c'est exactement comme votre table de mixage.
Et alors on parle de génome.
Pouvoir couper le micro de l'intervenant, par exemple, à un moment donné, parce qu'il parle trop.
Non, ça c'est plus Sandrine, généralement. pour l'ADN, alors quand on parle d'ADN, de génome, c'est pareil, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Non, alors voilà, le génome, c'est l'ensemble du patrimoine génétique, donc l'ensemble de l'encyclopédie du vivant. Et cet ensemble, et donc ces recettes de cuisine, sont inscrites sur une molécule qui est appelée l'ADN.
D'accord.
L'acide désoxyribonucléique, pour les initiés.
D'accord.
Et donc cette molécule d'ADN, c'est environ pour un être humain 2 mètres de long. Donc il faut se dire qu'on a l'équivalent de 3 milliards de lettres qui se trouvent sur une distance d'environ 2 mètres. Donc c'est une densité d'informations qui fait rêver les informaticiens, les électroniciens, toute personne qui travaille dans le monde du stockage de l'information.
Et vous, quand vous étudiez tout cela, vous vous dites « Ouais, c'est extraordinaire, c'est compliqué, oh punaise, celui qui a inventé celui-ci est très intelligent ». Vous, quand vous voyez tout cela, vous vous dites qu'il y a quelque chose du hasard ou pas du tout ?
Alors, pour ça, je citerai juste une phrase de Bill Clinton, parce qu'il y a eu un projet pour décoder, pour apprendre à lire le génome humain. Et le jour de la conférence de presse qui présentait ses premières avancées du génome, en l'an 2000, Bill Clinton a commencé sa conférence de presse en disant « Aujourd'hui, nous apprenons la langue dans laquelle Dieu a créé la vie.
» C'est bien dit.
Ça, c'est vraiment bien dit. Vos questions, vos réactions, vous pouvez les laisser dès à présent sur le numéro de téléphone plus 33 652 300 342 et également sur la page Facebook. Notre invité, donc André Hegen, est en duplex avec nous jusqu'à 10h.
Et on va aborder d'ici 10h la question que vous vous êtes peut-être déjà posée, en tout cas qu'on s'est peut-être au moins posée une fois tous. Hein. D'où elle vient, la vie ?
Phare FM. Sandrine, Nathanaël, allez au boulot avec Positif Morning. C'est votre patron qui vous dira merci.
Semaine spéciale de la vie sur Phare FM avec chaque jour un invité spécialiste dans son domaine. Le but, retrouver le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions. Même quand ça fait un peu peur, André Hegen est notre invité jusqu'à 10h. Il est entre autres spécialiste du génome et des biotechnologies. Il est avec nous en duplex. Alors, on parlait du génome tout à l'heure. Ça sert à quoi de décoder un génome, André ?
Alors, ça sert à quoi ? C'est une très vaste question. Ça nous permet de comprendre déjà comment fonctionne ce génome. Mmh. Donc, un aspect purement recherche. Mais au niveau appliqué, on sait que le génome détermine, alors pas de façon absolue, mais va déterminer l'être vivant en devenir. C'est-à-dire qu'on observe des maladies génétiques qui se transmettent de génération en génération. Mmh. Et donc forcément, elles vont être, ça résulte d'une faute, d'une petite faute d'orthographe, d'un problème au niveau du génome. Mmh. Et donc décoder le génome va nous permettre d'aller lire quel est ce problème au niveau de la molécule d'ADN. Mmh. Donc décoder le génome, ça sert à des applications. Mais ça va aussi jusqu'à des applications de découvrir aujourd'hui des prédispositions pour certains cancers. Mmh. Donc il y a des vastes applications qui sont possibles grâce aux génomes.
Alors quand on parle de décryptage, est-ce que pour moi par exemple, je donne mon ADN, on peut décrypter et puis on peut modifier quelque chose qui ne va pas chez moi ?
Il y aurait du boulot. Ben,
ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui à l'aide de ce qu'on appelle des marqueurs génétiques, on n'entre pas dans les détails, mais on peut très facilement retrouver les origines d'une personne. D'accord. C'est-à-dire dire que cette personne est plus d'origine caucasienne ou africaine ou asiatique. Et donc, on reconstruit un petit peu l'origine de la personne.
Alors, quand
on retrouve même des apparentés, d'accord, grâce à cette génétique.
Alors, vous parlez de modification. Ces modifications, alors, elles se font donc à l'âge adulte ou elles se font bien avant, en état d'embryon ?
On est tous objet de modifications de notre ADN de par les radiations que l'on reçoit. Ça pose des problèmes, mais donc ça, on peut, grâce au décodage, enfin à la lecture du génome, on va commencer à le lire, à chercher à comprendre ce qui se passe. Et maintenant, un autre pan des biotechnologies aujourd'hui et de l'analyse du génome, c'est de pouvoir modifier ou de se dire, mais tiens, s'il y a une erreur, est-ce que je ne peux pas aller corriger l'erreur ? Alors, pour que ce soit pas corrigé dans toutes les cellules, il faut s'y prendre au moment où il n'y a pas beaucoup de cellules dans un organisme vivant, c'est-à-dire le plus tôt possible dans sa vie. Ce sera donc à l'état de l'embryon en général qu'on va faire ça. Alors, ça pose des grosses questions au niveau de l'éthique.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Si on peut corriger finalement toutes les petites erreurs, les petites et les grosses erreurs, on va vers quoi finalement ? Est-ce qu'on va vers un être humain parfait, si je puis dire ? Est-ce qu'on va vers cela ou pas
alors,
du tout ?
Alors, c'est un petit peu le danger. C'est que je pense qu'aujourd'hui, avec notre savoir, on va se dire, ah ben tiens, telle chose n'est pas bonne, donc je vais chercher à la corriger, sans que j'aie forcément toute la connaissance. Et donc, oui, on va se dire, tiens, pour un être humain parfait, il faut que telle anomalie génétique soit enlevée ou que telle caractéristique n'existe pas. Oui. Alors, heureusement, aujourd'hui, on ne sait pas encore trop modifié dans tous les détails. On peut faire certaines choses, mais quand même de façon limitée. Mais on a quand même une grande poussée aujourd'hui vers ces modifications, le plus tôt possible dans la vie, même vers le choix d'embryons qui porteraient certaines caractéristiques, au niveau notamment de l'intelligence, au niveau de certains caractères d'intérêt pour notre société. Ça débouche un petit peu vers le transhumanisme aussi.
Presque dans un film de science-fiction. Là.
Un peu impressionnant. Tout à fait.
Et pourtant, c'est la réalité.
C'est la réalité.
C'est proche de la réalité, en tout cas.
Le Positif Morning, c'est jusqu'à 10h. On a une semaine spéciale. Et c'est cette semaine, Nathanaël.
Oui, exactement. Vous avez promis cette question. On va justement la développer. D'où vient la vie ? On pose cette question-là à pas n'importe qui, à un spécialiste en biologie, André Hegen, qui est avec nous en duplex. On peut vous poser cette question-là ? Est-ce que vous avez une réponse qui pourrait nous satisfaire sur cette question d'où vient la vie ?
Je ne sais pas si je vais vous satisfaire, mais bon... D'où vient la vie ? C'est une question qui a titillé bon nombre de scientifiques au cours des derniers siècles. Mmh. Alors, il y a quelques siècles, on pensait que la vie apparaissait toute seule. Et même, on avait des expériences scientifiques qui démontraient ça. Ah oui. Il y avait notamment, je vais citer Johannes van Helmont, quelqu'un qui a vécu dans les années 1600 et qui, lui, faisait une expérience où il prenait une chemise souillée de sueur, des grains de blé, il mettait tout ça dans un récipient. Et puis ce récipient, il le mettait dans sa grange, il l'incubait 21 jours dans sa grange, et puis il voyait des souris sortir de son récipient. Donc il se disait, voilà comment se fait la vie. Et donc c'est ce qu'on a appelé la génération spontanée. Donc de tout temps, on a cru à une génération spontanée. Jusqu'au jour où finalement Louis Pasteur est venu et a fait quelques expériences et a démontré de façon absolument éclatante que la vie ne vient que de la vie. Alors, ça, c'est fort parce que ça a beaucoup d'implications. Parce que si c'est vraiment une loi de la biologie, la vie ne vient que de la vie, on se pose la question, mais comment s'est formé le premier organisme vivant ?
Oui, c'est ce que j'avais demandé.
Beaucoup, ça pose problème. Et donc certains de postuler une loi de l'abiogénèse, c'est-à-dire que oui, la vie ne vient que de la vie, sauf au tout début de la vie, où là, il y a un passage du monde inanimé au monde animé. Mmh. Ce qui est un peu tordu parce qu'on ne peut pas le vérifier scientifiquement. Donc moi, c'est une chose que je ne partage pas du tout. Je reste avec la vie ne vient que de la vie. Et si je peux me permettre, je citerai un biochimiste, Michael Danton, qui dit que la science moderne révèle que la vie est un phénomène transcendant qui se situe au-delà du quantitatif, au-delà de la mesure. Elle relève du royaume de Dieu, bien au-dessus du bricolage des mortels humains et de leur technologie appartenant à un monde fini.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas dire la vie ne vient de rien du tout, la vie vient de la vie. Comment vous le vivez quand vous parlez peut-être avec des collègues scientifiques qui ne sont pas chrétiens? Est-ce que c'est simple, cette conversation, peut-être avec un scientifique qui croit en Dieu et un scientifique qui ne croit pas en Dieu?
C'est pas vraiment tout à fait simple, parce que finalement, en tant que scientifique, on nous demande de mettre Dieu à l'écart, au placard, et de commencer de voir les choses de façon purement naturaliste et matérialiste. Mmh. Et donc, il n'y aurait que le matériel. Mmh. Or là, on voit vraiment une limite, c'est-à-dire qu'avec la science, on va pouvoir expliquer le fonctionnement des choses, mais on ne va pas pouvoir expliquer le pourquoi de la chose. Oui. Mmh. Et c'est là où on a une autre dimension qui vient et qui est absolument nécessaire de prendre en considération. Et c'est pour ça que le fait de la vie ne vient que de la vie, moi, ça reste un principe très grand. Et là aussi, j'en viens finalement à la parole de l'Écriture qui me dit « Mais en Dieu, nous avons le mouvement, l'être, la vie. » La radio autrement.
André Hegen est notre invité jusqu'à 10h sur Phare FM. Il est entre autres ancien directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, également spécialiste du génome. On en parle justement du génome, on parle aussi d'ADN. C'est la semaine de la vie sur Phare FM et aujourd'hui on l'aborde d'un point de vue biologique,
Nathanaël. Exactement. Et souvent quand on parle de l'homme, de son apparition, on parle d'une succession de hasards. En tout cas, ce sont certaines théories de dire, voilà, une succession de hasards qui fait que telle cellule est venue avec la telle, et puis après...
La vie a commencé
comme ça. Vous en pensez quoi, vous, de tout cela, de ce hasard, André?
Ah bien, moi, ça me fait m'interroger, parce que quand je vois le monde du vivant qui est si bien organisé, qui est si bien équilibré, qui comprend tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et dès qu'il y a une petite, la moindre faute, la moindre lettre génétique qui a un défaut sur l'ADN, eh bien, ça génère une anomalie génétique, ça peut générer un cancer. Quand on voit ces dérives-là, on s'interroge, mais est-ce que le hasard peut faire des choses aussi bien organisées? C'est comme si vous pensiez aujourd'hui, ou si vous croyez aujourd'hui, que votre studio de radio peut se constituer simplement par hasard. Est-ce que vous prenez les différentes composantes qui constituent vos micros, vos casques, tous les murs, tous les tables de mixage, vous laissez tous les composants ensemble, et puis vous attendez, et ça va s'auto-assembler de façon parfaite? Moi, je m'interroge sérieusement là-dessus.
On n'a pas encore vu, en effet.
Oui. Ouais.
Le temps, vous savez, certains scientifiques nous disent, le temps fait des miracles.
Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question, oui justement.
Mais non, le temps ne fait pas de miracles. Non.
Bah on va tester, on va poser un micro et une table de mixage, on verra s'il y a un deuxième studio qui
sort. Alors, coin,
je fais des fois une petite expérience pour imaginer ça. Vous prenez une boule en plastique transparente, vous achetez une boîte de Lego au magasin du coin qui est démontée. Vous mettez ces morceaux de Lego à l'intérieur de la boule, vous secouez. Combien de temps vous allez secouer pour atteindre finalement, pour réussir à reconstruire la petite voiture que vous voulez avoir?
Oui, c'est vrai, c'est une belle image.
En effet, on va pouvoir secouer, je crois.
Et dans le côté compliqué, vous nous disiez tout à l'heure, et de ce hasard qui en tout cas peut être très compliqué à imager, finalement, vous parlez de cet ADN, de ces 2 mètres de longueur, de tout ce qui peut stocker. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi tout cela est extraordinaire quand même, cet ADN?
Ah, tout à fait. Alors, l'ADN, on a dit 2 mètres. Dans chacune de vos cellules, sauf les globules rouges, vous avez de l'ADN. Donc, ça veut dire que vous avez 2 mètres dans chacune de vos cellules. Vous avez des milliards de cellules. Donc, les informations qui sont contenues en vous, correspondent un peu à l'équivalent de 492,5 piles de livres qui iraient de la Terre à la Lune.
Ah oui.
Ah oui.
Ah, c'est énorme.
Vous prenez, et tout ça est compacté. D'accord. Tout ça est compacté. Et donc, c'est là où aujourd'hui, les recherches au niveau du stockage de l'information vont justement vers le domaine de l'ADN. On cherche à écrire des livres, à coder des films au niveau de l'ADN. Parce que si on pouvait coder des films, et on a commencé à le faire, sous la forme d'ADN, en utilisant le même système, eh bien on arriverait, tous les films qui ont été produits depuis les années 1900, on arriverait à les faire tenir dans deux petites briques de Lego.
Ah oui, waouh. Eh ben dis donc, ça permet de voir un petit peu ce que le côté miraculeux finalement de cet ADN, de ce qui peut stocker. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. André, on est encore ensemble durant une petite vingtaine de minutes et vos questions, vous pouvez les poser encore dès à présent. Plus 33 652 300 342.
André Hegen, ancien directeur de recherche à l'INRA, spécialiste du génome et des biotechnologies. André, vous nous disiez tout à l'heure que finalement, la vie, pour que la vie se forme, il faut un ensemble, même un grand ensemble de paramètres. Il faut que tout soit réglé, j'allais dire au millimètre, en sachant que c'est encore réglé
encore
plus précisément que le millimètre. Et que finalement, un studio de radio, par exemple, ou un téléphone portable, par exemple, on a beau mettre toutes les petites pièces ensemble, à un moment, ça ne va pas se former tout seul. Mais alors justement, s'il y a finalement tant de perfection, on peut dire ce mot-là, tant de perfection dans la vie, dans la vie qui nous entoure, pourquoi ne pas inclure Dieu ? Pourquoi la communauté scientifique a tant de mal à inclure Dieu à ses recherches, alors que ça lui permettrait, enfin on l'imagine, de pouvoir aller plus loin finalement dans ses recherches ?
Grave question. Oui, alors je pense qu'aujourd'hui on nous définit la science comme étant, comme ayant une base matérialiste. C'est-à-dire qu'il ne faut étudier que le matériel, et le surnaturel n'existe pas, ou n'existerait pas. Et donc, on va étudier le fonctionnement de la matière, on va essayer de dériver certaines connaissances, de comprendre comment fonctionnent certaines choses, comment fonctionne le monde du vivant, comment fonctionne l'infiniment petit, l'infiniment grand, et sans faire intervenir un dieu quelconque dans ces phénomènes. Alors ça, c'est la position des non-croyants, et même de certains croyants, où on nous dit, eh bien, il faut séparer les choses, il faut surtout ne pas faire intervenir, sinon c'est pas de la science. La science, c'est répéter des expériences, et donc tirer des conclusions. Mais on voit qu'on est limité au niveau scientifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas répéter ce qui s'est passé à l'origine de la vie. C'est pas possible. Donc quand on me dit, c'est scientifique de croire que la vie s'est formée par hasard, je peux pas le répéter aujourd'hui. Je peux pas le prouver scientifiquement. La radio autrement,
FM. La radio autrement, pour cette semaine spéciale, semaine de la vie, où on s'applique, où on essaye de retrouver le miraculeux qui nous entoure dans notre vie de tous les jours, qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus. Avec un invité différent chaque jour, André Hegen est encore avec nous jusqu'à 10h. Il est entre autres spécialiste du génome et des biotechnologies. On allait aborder quelque chose d'assez fascinant avec vous, André. Ça s'appelle le biomimétisme. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Oui, alors c'est aussi un vaste sujet, ça mériterait qu'on repasse une autre matinée ensemble. Mais le biomimétisme, finalement, c'est s'inspirer de la nature, donc de ce qui est présent dans la nature, pour dériver des applications au niveau technique. Alors, c'est un très vaste sujet parce que ça commence par exemple par le Velcro, qui a été trouvé justement en observant la nature.
D'accord.
Ça va continuer par l'idée de pouvoir faire des gilets pare-balles à partir de toiles d'araignée. Parce que c'est ultra résistant, beaucoup plus que ce qu'on connaît. Et on parle beaucoup d'écologie, de produire de façon durable, sans polluer. Ce qui est assez particulier, c'est que la nature, dans le monde du vivant, donc on a parlé du génome, il y a des instructions qui codent pour produire, et tous ces êtres vivants produisent certaines choses, le fil, la soie de l'araignée, ou la colle de la moule pour s'agripper au rocher. Tous ces êtres vivants vont produire à température ambiante, sans produire de déchets. De la fibre optique d'une certaine éponge qui est produite, bien meilleure que nos fibres optiques que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, tout cela s'est produit à température ambiante ou quasi ambiante. Et donc, ça fait vraiment rêver aujourd'hui nos concepteurs et on se dit, mais on a besoin d'un retour à la nature. Oui, mais d'un vrai retour à la nature. On observe le vivant pour dériver des choses. Parce qu'on reconnaît que dans la nature, il y a tellement de choses qui sont déjà présentes que ça va nous aider, ça va nous inspirer pour produire des développements ou améliorer certaines technologies.
Et donc là, ça veut dire que vous, en tant que spécialiste, on va faire appel à vous, des entreprises vont faire appel à vous en disant, voilà, cette moule, qu'elle s'accroche sur le rocher, c'est résistant. Et on va essayer de voir des biologistes pour essayer de se dire, on va essayer de reproduire notamment cette colle pour la moule, comme vous le disiez.
Voilà, alors c'est pas moi personnellement que ces gens vont contacter, mais il y a un courant aujourd'hui, il y a toute une discipline qui est montée où l'idée c'est d'aller observer à plusieurs, architectes, ingénieurs, designers, aller observer, faire organiser des études de terrain sur des sujets bien précis de la nature. Des spécialistes du chauffage et de la climatisation vont aller étudier les termites et pouvoir construire des bâtiments qui vont s'auto-réguler. Fascinant.
C'est vraiment fascinant.
J'allais dire fascinante nature et perfection derrière tout cela, encore une fois. Oui. Alors, André, on va arriver au terme de cette émission, hélas, parce qu'on aurait bien continué une heure rien que sur le biomimétisme.
Oui.
Mais est-ce qu'on pourrait résumer à peu près ce que vous nous avez dit durant cette heure avec nous, pour ceux qui viennent peut-être à l'instant d'arriver?
Alors, moi, je résumerais peut-être par la première chose, une phrase de Victor Hugo qui disait « La nature parle et les hommes ne l'écoutent pas Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des merveilles du monde du vivant. Et devant ces merveilles du monde du vivant, on nous dit « hasard et nécessité ». Non, je pense qu'il faut voir un peu plus loin. Ce monde du vivant nous interpelle et nous dit que ces merveilles du monde du vivant pointent vers un architecte. Un architecte, un designer, un ingénieur, un prix Nobel dans bien des domaines qui a fait ces choses dès les origines, qui a montré un petit peu la voie des perfections du monde du vivant pour, dans un but bien précis, qui est de le connaître lui.
Merci pour cette belle conclusion.
Oui.
On rappelle que vous pouvez retrouver tous ces replays sur le site pharefm.com. Replay donc de ces émissions d'une heure avec notre invité hier et aujourd'hui avec André Hegen. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom de famille. Merci, une excellente journée, André.
Merci beaucoup.
Merci
d'avoir été avec nous.